RMC, 21h-22h, Buzzer Time, Pierre Dorian.
Allez, c'est parti pour Buzzer Time, une nouvelle saison de basket commence sur RMC, mais on a gardé le même casting, hein. Fred Veil, Stephen Brun, ça va les gars?
Un casting de luxe.
Ouais, ça a l'air déçu du casting, on s'excuse.
Non, casting, bon casting, j'irais pas de luxe. T'as de luxe, c'est si on avait Ginobili Parker, quoi.
Tout de suite.
Ou Jordan Magic.
Une médaille olympique, ça te suffit pas.
Une médaille olympique, champion départemental de Haute-Savoie, ça te suffit pas.
Et avec Vanf, t'as gagné quoi là? Non, rien, t'as rien gagné avec Vanf.
Si, j'ai gagné j'ai gagné trois voyages en commission de discipline.
C'est pas mal déjà.
C'est bien déjà. C'est intéressant.
Ça, vous êtes en forme?
Non, pas.
Est-ce que vous aimez le nouveau nom de l'émission?
Buzzer Time, il faut répondre sérieusement à cette question.
Ouais.
C'est hyper original.
C'est
je sais pas d'où ils ont trouvé le titre.
Il y a eu un énorme brainstorming, j'ai l'impression.
On a gardé les mêmes rubriques, hein. Vous n'allez pas être déstabilisé. Fred, à 21h30, il y a le 1 contre 1. Le premier de la saison.
Tu mets la pression d'entrée.
J'ai un bon pressentiment pour toi cette saison. J'ai l'impression que tu vas mieux t'en sortir. Fais un truc hyper facile pour démarrer.
Il peut gagner, par contre.
Écoute, peut-être que ce soir il peut gagner parce que ce soir il va avoir un renfort de poids. En tout cas, ça sera bien complémentaire avec tes qualités puisque Olivia Epoupa va être avec nous pendant une heure et je pense qu'elle ira dans ton équipe. Bonjour Olivia.
Bonjour.
Il y a la Coupe du Monde qui arrive, hein. Faut être sérieux deux minutes, hein, parce qu'on les chambre les deux grands, mais toi t'as une vraie échéance qui arrive avec l'équipe de France, hein.
Oui, c'est vrai qu'on prépare la Coupe du Monde qui va commencer fin septembre avec l'équipe de France. On a un petit break, donc ça me laisse le temps de revenir en famille pour profiter.
Et avec des grosses ambitions, on en parlera. Évidemment, c'est un spécial Boris Diaw ce soir. Et puis, le 1 contre 1, bien sûr, avec Fred Veil. C'est notre rubrique Info Basket avec Cyril Méjeanne. C'est à la fin de l'émission, bien sûr, le Locker Room. Il a passé son été avec des stars de la NBA.
Donc,
il ramène plein d'infos dans sa besace.
Très bien.
Allez, on est parti.
RMC Buzzer Time.
George Diaw gets inside, puts France on top. That's the experience of Boris Diaw. Back his man into the lane. Look at that.
Les news.
Alors pas besoin d'être bilingue pour comprendre qu'on va démarrer par Boris Diaw, bien sûr, qui a annoncé sa retraite. Alors il y a rien d'exceptionnel dans l'annonce parce qu'on s'en doutait. Peut-être même que vous étiez au courant, vous deux, non?
J'étais sur le bateau, ils m'ont pas mis dans le champ de la caméra.
T'étais sur le bateau et t'ont foutu à l'eau au moment de filmer.
Exactement.
Boris Diaw, donc 18 saisons professionnelles, donc 14 en NBA, 247 sélections en équipe de France, comme sa maman Elisabeth Riffio, 191 fois capitaine. Il y a Tony Parker qui a un statut un peu à part. Et après, il y a Boris Diaw, non, qui incarne cette équipe de France de basket.
Oui, mais pour moi, c'est même le joueur le plus talentueux de l'histoire du basket français. C'est pas celui qui a fait la meilleure carrière. On est d'accord, on est tous d'accord avec ça. Parce que bon, Tony est un cran au-dessus. Mais pour moi, au niveau du talent pur, c'était lui.
Steve.
Dans la top 2. Tony en 1 par son palmarès et Boris en 2. Mais je dirais humainement, enfin, si tu dois regrouper le terrain et en dehors, Boris est numéro 1 parce qu'il a fait l'unanimité à la fois sur le terrain et en dehors, c'était deux personnalités différentes. Boris, lui, c'était l'amour des autres, alors que Tony, c'était la compète. Mais Boris est un joueur hors norme qu'on ne reverra jamais un joueur comme ça sous le maillot bleu.
Champion d'Europe en 2013, donc 191 fois capitaine. Alors, pour annoncer sa retraite, il s'est un peu mis en scène sur son bateau avec ses deux compères de toujours, Ronny Turiaf et Tony Parker.
Babac à la retraite.
Face à révérence.
À la retraite. Et au fait chaud.
C'est officiel.
C'est officiel.
Putain, félicitations mec. Bienvenue au club magazine.
Félicitations.
Bienvenue.
Alors voilà pour la mise en scène. Vous avez trouvé ça comment? Vous avez regardé en entier la vidéo? Ça fait une vingtaine de minutes où ils discutent à bâton rompu de leurs souvenirs, de leur carrière.
J'ai tout regardé, bien entendu.
J'ai tout regardé aussi.
J'ai tout de suite bien apprécié le t-shirt de Boris.
Ouais, il est en mode plaisancier.
Ah, il est en mode capitaine de navire.
Il a un débardeur jaune clair avec des esquimaux dessus, enfin des esquimaux des glaces.
Glaces,
quoi.
Ouais, ouais. Des cornets. Des petits cornets. Non, c'est sympa, ça a été fait en juillet, mais on s'en doutait tous depuis un moment.
On y a cru un petit peu sur la fin et après tout de suite ça s'est...
Il a attendu un appel NBA. Je pense que si un club NBA le rappelait, il repartait.
De toute façon, déjà l'année dernière à Levallois, il était convenu, il était même dit officiellement dans les médias que si une franchise l'appelait, il partait de proie.
Oui, très clairement. Mais là, son corps est en difficulté. Boris, l'année dernière, c'était un entraînement par semaine, hein, avant de jouer le match. Je crois crois que il a profité de son bateau pendant deux mois. Il a vite compris que revenir faire une pré-saison, s'infliger des déplacements.
C'est plus facile de se lever les matins aussi quand on s'entraînait pas. Curieusement, oui. Donc.
Alors l'hommage est unanime évidemment. On va écouter les plus proches, Tony Parker, Nicolas Batum et puis le sélectionneur Vincent Collet.
Je suis vraiment content pour lui. Il a eu une super carrière, un des meilleurs de l'histoire du basket français et un joueur unique sur et en dehors du terrain. J'ai envie de dire le joueur parfait, quoi, le complément parfait par rapport à nos deux personnalités.
C'était surtout en dehors comment il créait une cohésion quand il faisait des barbecues à la place d'entraînement, des paintball à la place d'entraînement qu'on n'avait pas le droit de le faire. Ou des sorties laser game alors qu'ils ont enfin des trucs comme ça ou sorties bateau Arcachon avec barbecue à la fin. Non, voilà, c'est des choses que Boris organisait parce que on est faire salade ça d'une depuis là alors qu'on devait avoir entraînement, enfin bref, des trucs comme ça. Donc c'est Boris quoi, c'est un cachin qui va manquer.
Le symbole de Boris Diaw, c'est le match contre la Russie au mois de février parce que je pense que physiquement il était plus en mesure de faire ce type de match. Donc il l'a fait avec la tête. Il a senti que l'équipe de France était en danger et à lui tout seul, il l'a quasiment porté sur ses épaules pour qu'on puisse battre la Russie après prolongation. Et je me souviens que le lendemain, quand on était à l'entraînement, il m'a clairement fait entendre qu'il fallait pas compter sur lui pour le match du lendemain contre la Belgique.
Vous avez entendu quand même dans les propos de Nicolas Batum, ça se termine toujours par une bouffe avec Boris quand même. Hein.
Bah c'est un épicurien, tout le monde le sait, il adore la bouffe, il adore boire le vin, avec modération, mais il adore le vin bien sûr.
Olivia, il représente quoi Boris Diaw pour ta génération ?
C'est un exemple, c'est vraiment une personne d'une simplicité hors norme, avec une humilité. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir le côtoyer et c'est vrai que il est très accessible. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui a été vraiment exemplaire dans sa grande carrière et c'est sûr qu'il marquera les esprits à jamais.
On a quand même un petit taquet à mettre. Je suis désolé à Cyril Méjeune quand même. Parce qu'on est l'émission basket de référence, on a le producteur qui a un carnet d'adresses Thomas dans le basket français.
Ouais, ouais. On a touché les limites
là,
de Cyril Méjeune.
Là, on devrait...
Allô, Babac ?
Allô, Babac ?
On a touché les limites de Cyril Méjeune ce soir.
Là, franchement, je suis hyper déçu. Moi, je sais pas si on va le garder. Hein. Il me dit, il est sur son bateau.
Ouais, enfin, bateau, il y a téléphone,
sur le bateau. Équipé, non ?
Bon, je dis que des bonnes choses sur Boris, mais il faut quand même dire une chose qui est un peu moins bonne, c'est qu'il a pas été assez égoïste pendant sa carrière.
Non, mais alors, il y a. Non,
mais ça aurait pas été, ça aurait pas
non,
été
mais
Boris
bien
Diaw.
Évidemment, mais il avait tellement de talent, il pouvait apporter tellement offensivement que parfois il se mettait un peu trop en retrait. Et c'est un peu dommage.
Ouais,
un tout petit bémol sur
mais il était plus heureux de faire une passe d'aise dans le corner que de scorer.
Il aurait été encore plus productif pour les équipes avec pour lesquelles il a joué. Il aurait fait une carrière encore plus exceptionnelle en NBA.
Mais est-ce que ça aurait fait le coéquipier modèle si Boris mettait plus de points?
Bien sûr que non.
S'il a été dans tant d'équipes, c'est que les gens disent, ah, il croque pas, c'est parfait.
Mais les gens qui ne connaissent pas le basket auraient dit qu'il était encore meilleur.
Ouais, mais Fred, après, est-ce qu'on n'est pas conditionné aussi par le stéréotype du sportif de haut niveau? Est-ce que finalement, il en faut pas des mecs comme ça? Et est-ce que ça fait pas plus de bien qu'autre chose parce que
c'est dommage que le néophyte
Boris avait eu les dents qui règlent le parquet
c'est
il
dommage
avait un
que...
peu changé son jeu pour mettre peut-être plus de points. Peut-être que dans certains matchs, il aurait été plus décisif. Peut-être aussi qu'il n'aurait pas 247 sélections en équipe de France. Hein.
Certainement que si, mais c'est surtout que le néophyte, quand il regardait les stats de Boris, souvent il disait, oh ouais, Boris Diaw, c'est moyen. Et je trouve ça dommage parce qu'il méritait plus. Ouais. Parce que c'était vraiment un joueur
Boris, c'est quand même un mec qui était MVP de Pro A à 7 points de moyenne ou à 8 points de moyenne quand même. Ce qui a choqué tout le monde.
Ce qui a choqué tout le monde. Alors que ceux qui connaissent le basket diront que ben c'est logique parce qu'il apportait tellement, il éclairait le jeu et c'était très important.
Après, hormis ce petit bémol que tu mets, c'est impossible de trouver un défaut à Boris Diaw ou de trouver un ennemi à Boris Diaw. C'est un mec qui fait l'unanimité.
Il fait l'unanimité, mais je crois que Boris Diaw dans sa carrière de joueur a eu un seul mauvais geste. Mais pour nous, ça a été un bon geste, c'est quand il a cisaillé un Espagnol, Sergio Llull, en demi-finale de l'Euro.
À qui ça n'a pas fait plaisir?
Exactement, mais c'était un mauvais geste, mais qui a fait plaisir à tout le monde.
Mais pour qu'un mec comme Boris fasse ça, c'est qu'ils étaient vraiment très très relous les Espagnols. Quand même.
Très relous. En plus, on prenait une branlée en première mi-temps et Boris il a dit bon, faut faire quelque chose.
Mais c'est ce qui a permis quelque part
la rébellion.
De réveiller l'équipe, la rébellion, et c'est à partir de ce geste que l'équipe a commencé à bien jouer.
Olivia, tu partages? Toi aussi, t'as été content de le voir mettre.
Toi aussi, t'as envie de sécher une espagnole aussi un jour.
Non, du tout. Moi, j'ai aucun souci avec le clan espagnol. Hein.
Il y a une grosse rivalité en équipe de France.
Non, c'est une équipe comme une autre.
Hein. Et vous avez quand même privé pas mal de médailles.
Oui et non, en fait, parce que j'ai pas de complexe d'infériorité face à l'Espagne. C'est une nation comme une autre. Quand on joue la Serbie, c'est aussi la même chose. Et si on regarde aussi les finales précédentes, la Serbie nous prive de pas mal de succès aussi, donc quand on joue l'Espagne, la Serbie, mais aussi la Croatie ou la Belgique, pour moi c'est les mêmes équipes. Donc il faut les prendre de la même manière.
Olivia et Poupa dans Buzzer Time ce soir jusqu'à 22h. On va reparler de Boris Diaw, notamment dans le 1 contre 1 tout à l'heure. J'espère que vous avez bien suivi l'actualité de la retraite de Boris Diaw. Ce ne sera pas 100% Boris Diaw.
J'en étais sûr.
Il y aura 2-3
J'ai essayé de te soulever tout à l'heure, ce sera sur Boris. Tu m'as dit non.
Si, je t'ai dit oui, mais
non,
pas que.
Non, tu m'as dit non.
Je crois que tu m'as posé une question.
On vous dérange,
t'as même pas écouté la réponse.
Si vous nous le dites, Olivier et moi, on est là aussi.
C'est le comble du joueur mal poli.
Je m'en fous, j'ai pas
parlé. Il te pose une question, il n'écoute pas la réponse. Après, il fait n'importe quoi.
C'est pour ça que ça n'a pas été Boris Diaw.
Il respecte pas les systèmes.
Ça n'a pas été Boris Diaw, en fait, c'est pour ça.
Allez, Buzzer Time, ça continue. L'équipe de France féminine, d'abord, la Coupe du Monde se rapproche. Du 22 au 30 septembre en Espagne sur RMC. Et on va en parler avec Olivia et Poupa. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h, Buzzer Time, Pierre Dorian.
Allez, on est ensemble jusqu'à 22h avec Stephen Brun et Frédéric Weiss. Olivia et Poupa, la meneuse de l'équipe de France féminine, est avec nous également parce que du 22 au 30 septembre, c'est la Coupe du Monde.
RMC, Buzzer Time, Buzzer
Time. Céline Dumère.
Les news, équipe de France féminine.
Alors donc ça se rapproche puisque donc l'équipe de France démarre dans 12 jours sa Coupe du Monde dans la poule des Bleus, Corée du Sud, Grèce, Canada, et puis on va détailler un petit peu le programme de cette Coupe du Monde. Il faudra peut-être éviter les États-Unis et donc viser la première place dès cette phase de poule.
Peut-être l'Espagne aussi, ils jouent à domicile, c'est un peu chaud aussi.
On va détailler tout ça. D'abord, Olivia, globalement, quel est l'objectif de l'équipe de France féminine?
Être performante le plus possible.
Il n'y a pas une médaille tout de suite, là, on n'annonce pas direct podium.
Non, du tout. C'est vrai qu'il y a énormément d'attentes fédérales par rapport à cette équipe de France vis-à-vis du ranking mondial qu'on a, qu'on est sur le podium. C'est sûr que les attentes sont très élevées et que l'équipe de France est ambitieuse et vise un podium, mais il va falloir faire preuve d'humilité et être prête par rapport à cette compétition qui va être très relevée. Et donc, on en est consciente et on a des matchs de préparation qui vont nous permettre au mieux d'être prête pour
cet événement. Il y a beaucoup de pression?
Oui, il y a de la pression parce que on a attendu. On sait que lorsqu'on y a des matchs amicaux, toutes les équipes ont à cœur de battre l'équipe de France parce qu'on représente pas mal de choses dans le basket mondial. Et c'est sûr que c'est un challenge aussi en tant que joueuse. Donc il faut savoir jouer aussi avec cette pression et faire la part des choses et en étant sur le terrain répondre du mieux qu'on peut.
Alors la formule, donc c'est 4 poules de 4 équipes et il suffit pas de terminer aux 2 premières places pour aller en quart de finale, ce serait trop simple. Les 3 premières nations de chaque poule sont qualifiées, mais les premiers de poule vont directement en quart. Les deuxièmes et troisièmes sont qualifiés en barrage, l'équivalent d'un huitième de finale. Et vu le tirage au sort de la France, il faut absolument éviter la troisième place parce que ça voudrait dire prendre les États-Unis en quart de finale. Et même la deuxième est périlleuse parce que ça veut dire retrouver très vite l'Espagne. En gros, il n'y a pas de salut en dehors de la première place. Olivia, c'est le message qu'on vous fait passer ou pas?
Non, mais on se prépare pour jouer les matchs après match. On va commencer par la Corée, ensuite on aura d'autres matchs. C'est vrai que la première place nous hisse directement en quart de finale. Après, ça peut arriver des erreurs de parcours. On peut perdre un match de poule, mais ça n'empêche que nos objectifs sont les mêmes. Il faut garder la tête froide, essayer de se remobiliser du mieux qu'on peut. Et peu importe l'adversaire qu'on croisera, que ça soit en huitième ou en quart de finale, il va falloir être prête.
Aujourd'hui, Steve, les États-Unis, pour une équipe comme la France, c'est faisable sur un match ou pas? Honnêtement.
Les gens vont me dire sur un match tout est faisable. Moi, j'ai envie de te dire c'est injouable. C'est injouable parce que la dernière fois qu'elles ont perdu, c'était contre la France. Tu vas me dire à Coubertin en match amical après prolongation. Mais aujourd'hui, ils ont un tel effectif, une telle densité, de la taille dans la raquette. Ça me paraît compliqué. Elles mettent des branlées.
C'est pas en France et c'est pas un match amical.
Non, c'est pas en France. Et elles mettent des branlées à tout le monde. Donc moi, j'ai toujours tendance à dire, et chez les mecs, c'est pareil. C'est que quand tu vas à une Coupe du Monde ou aux Jeux Olympiques, et ben il reste plus que 2 places en fait, parce que la médaille d'or est déjà prise. Donc tu te bats pour l'argent et le bronze, et ça va être encore le cas.
Après, aujourd'hui en NBA, il y a énormément de joueurs étrangers, ce qui fait que sur bonne génération
en WNBA, là,
tu peux avoir l'Argentine qui tape les États-Unis, et pourquoi pas l'Espagne un jour, et pourquoi pas la France un jour.
Non, mais c'était pas compliqué. Quand ces équipes ont battu les États-Unis envoyaient juste les meilleurs joueurs. Ils envoyaient pas une équipe, ils envoyaient les meilleurs joueurs. Donc il y avait pas, tous les postes n'étaient pas remplis. Et c'était pas des vraies équipes. C'était un cumul de superstars.
L'Espagne était à deux doigts. A fait la plus belle finale de Coupe du Monde, je crois, de l'histoire du basket. Ils avaient la meilleure équipe de l'histoire du basket espagnol. Ils sont pas passés. Et je suis pas sûr qu'on retrouve une équipe du même niveau que cette Espagne-là, avec les frères Gasol, avec Ibaka, avec Ricky Rubio, avec Rudy Fernandez. C'est compliqué. Et chez les filles aussi. Et chez les filles en WNBA, il y a beaucoup moins d'européennes que chez les mecs. Olivia, toi, dis-nous, tu penses que c'est jouable les States ou pas?
Non, pour être très honnête, aujourd'hui, je pense qu'on a une longueur de retard vis-à-vis des États-Unis, que ce soit sur le plan des garçons et les filles. Donc, on se prépare. Il faut se préparer, je pense, à essayer de récupérer ce retard-là. Donc, on sait, il faut être conscient qu'elles sont au-dessus de la mêlée. Il faut être honnête par rapport à ça et se préparer au mieux pour affronter ses adversaires. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'elles sont sur le papier supérieures à nous, que quand on va jouer un match, il faut partir défaitiste. Je pars du principe qu'on est des compétitrices, moi la première. Quand je joue un match, peu importe la fille que j'ai en face de moi, que ça soit une Américaine, une Espagnole ou une Argentine, pour moi, c'est la même motivation et c'est la même... volonté de vouloir gagner ce match. Après, sur un match, on sait jamais. Il y a eu pas mal de surprises. Mais à l'heure actuelle, oui, les États-Unis dominent le basket mondial.
Ça, alors, Olivia, tu vas peut-être avoir un autre match à jouer. Tout dépend de comment cette histoire va se terminer, puisque une joueuse américaine de WNBA, donc Bria Hartley, a proposé ses services à l'équipe de France. Alors, faut savoir qu'elle a un ancêtre français, une grand-mère, exactement.
Sa maman a un passeport français aussi.
Et que donc, elle peut peut-être légitimement...
Son grand-père a visé la Tour Eiffel aussi. Visé la Tour Eiffel il y a 45 ans.
Après, bon, c'est une histoire un peu particulière, mais il n'est pas exclu qu'elle intègre l'équipe de France. En plus, c'est ton poste. Est-ce que cette histoire te saoule, honnêtement, Olivia?
Déjà, d'une part, c'est pas que mon poste, parce que pour savoir la jeu, c'est une combo, c'est une poste 2-1. Donc, elle est sur deux postes. Et puis... ça fait partie de la concurrence. À un moment donné, quand on veut faire partie de l'élite, il faut savoir assumer et être en capacité de répondre face à la concurrence. Donc, qu'elle vienne, qu'une autre vienne, c'est la même chose.
Et voilà, tu vas la manger, quoi.
Ça changera pas.
Et en termes d'éthique, tu trouves ça comment, toi, la formation, la française, t'en fais partie, t'es un pur produit de la formation française. En termes d'éthique, qu'est-ce que ça renvoie comme image de naturaliser une joueuse comme ça?
Mais écoutez, tu parlais des techniques, pardon. Donc c'est sûr que moi j'ai grandi avec la formation française. On s'est battu. La formation française coûte énormément. L'INSEP, pour avoir vécu l'INSEP, les centres de formation aussi. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui peut fâcher et tout, mais en tant que joueuse, il faut prendre du recul. C'est vrai qu'on est plusieurs. Il faut savoir qu'on a un vivier en France avec de très belles joueuses françaises. Donc on peut se poser la question, pourquoi prendre une américaine plutôt que prendre une jeune française plus talentueuse ou du même niveau?
Toi, Fred, qui était très favorable à...
Je suis complètement contre Joël
Embiid.
Et là, je me pose la question, parce que sa maman a quand même un passeport français, donc c'est une naturalisation, je suis même pas sûr que ce soit le terme, en fait.
Elle parle même pas français, Joël Embiid parle français.
Je suis d'accord.
Mais après, elle a quand même...
Joël Embiid, il a aucun lien avec la France. Après, et donc ça m'ennuie. Alors que là, sa maman est
alsacienne. Elle a deux bouteilles de Guibos très mineur dans le frigo.
Gebers. Mais, tu vois, je m'interroge plus par rapport à ça, parce que, quelque part, elle a des droits de française, et dans ce cas-là, si elle a des droits de française, pourquoi elle n'intégrerait pas l'équipe de France?
C'est elle qui a fait la demande, qui a téléphoné à Valérie Garnier pour justement essayer d'intégrer l'équipe de France. Mais cette image-là, moi, elle m'embête parce qu'on a eu une équipe de France U17 qui a été formidable, qui perd contre les États-Unis au championnat du monde avec une petite Marine Fautou à la main. C'est ce message-là qu'on envoie à ces générations-là qui est amenée à représenter la France au JO 2024. Pourquoi pas intégrer ces gamines-là plutôt que de naturaliser une joueuse et
envoyer un message négatif? Naturalisation me dérange parce que pour moi c'est pas une naturalisation. Elle est simplement française. Elle choisirait la nationalité française.
Fautou, c'est un nom qu'on connaît.
C'est la fille de Freddy
Fautou.
Ouais, exactement.
Ah oui, ouais, ça doit le ravir. Non mais franchement, après, pourquoi les règlements du basket international permettent ça? Est-ce qu'on le sait? Parce qu'il y a beaucoup de nations qui ont un Américain.
T'as le droit à une naturalisation.
C'est ridicule,
chaque équipe.
Ce truc. Quelle est l'idée derrière ça?
Mais celle-là est moins scandaleuse que d'autres.
Honnêtement, une fois, celle-là, elle me paraît pas scandaleuse. Vraiment. Je suis désolé. Et pourtant, je suis le premier
à défendre
les
scandaleux,
Français.
Mais c'est pourquoi c'est Fred? C'est parce que la Fédération Française de Basket, elle s'est toujours offusquée quand on perdait contre l'Espagne chez les filles, quand il y avait Sancho Little, où c'était une naturalisation un petit peu suspecte. Et on prenait branlé, on disait, mais c'est incroyable, ils ont naturalisé cette joueuse-là, on n'arrive pas à gagner. On pointait du doigt toutes les nations qui naturalisaient joueurs et joueuses. Et aujourd'hui, on fait la même chose. C'est ça qui m'agace un petit peu.
Ouais, mais sa maman étant française, dans la loi française, tout simplement, elle a le droit de choisir sa nationalité. Et pourquoi elle choisirait pas la française? C'est simplement la législation mondiale, j'allais dire, qui autorise à ça.
Et si elle avait le niveau pour intégrer Team USA, tu crois qu'elle a fait la demande pour jouer avec l'équipe de France?
Non, je pense pas.
Je pense pas.
En plus, elle a.
Non, mais je vais pas mentir. J'ai pas que ce soit bien ou mal.
Elle a eu un cursus quand même universitaire américain.
Ouais,
elle a joué avec UConn.
Ça veut dire que Tariq Abdulwahad, il a eu un cursus aux États-Unis. Et finalement, il a pas été formé en France.
Mais sa mentalité, plus américaine ou plus française?
Elle a joué à Team USA, jeune, je crois, en plus.
Je sais pas. Et Joachim Noah. Il a jamais joué en France. Il a fait tout son cursus là-bas.
Oui, mais après, il y a une question aussi.
Et finalement, quelle est la différence?
Et puis, il y a un avantage aussi.
Il y a la différence, c'est que Joachim Noah, il est parfaitement francophone.
Ouais, mais est-ce qu'il se sent français?
Il a un père qui a quand même porté les couleurs de la France à très haut niveau. Mais tennis, un grand-père aussi.
Et pourquoi Tony Parker, il joue à Sedan? Pourquoi Tony Parker, il joue pas avec la Belgique?
Ouais.
Mais non, mais Tony Parker, il y a pas de question à se poser. Il est né en Belgique, il est français.
La Belgique, c'est la France.
Il est né en Belgique, mais de mère
française. C'est le droit du sol. C'est le droit du sol.
Non, mais il y a aussi un énorme avantage pour cette joueuse, c'est avoir un passeport européen. Pour sa carrière personnelle et individuelle, c'est bien mieux pour aller dans les clubs, parce qu'il y a des quotas de joueurs US.
Elle est titulaire dans son équipe de
WNBA. Ouais, elle est titulaire, mais une équipe qui va vouloir prendre elle en tant que bossman, elle va pouvoir prendre une autre ricaine à côté. C'est un statut différent, un statut qui avantage aussi les joueurs ricains, les passeports européens.
Ouais, disons que c'est une espèce de conversion à la France, là, c'est n'importe quoi, là. C'est-à-dire que c'est...
Moi, je préférais que
si c'était pas un vrai avantage pour sa carrière, elle l'aurait probablement jamais fait.
Non, mais oui, mais au niveau de la loi, il y a rien d'illégal, donc ça me choque, mais encore une fois, je préférerais voir Marine Fautou qu'elle. Bon, ça, c'est une évidence.
Très bien,
et puis, en plus, dans un vestiaire, ça va faire bizarre, non? Enfin, Olivia, sur les briefings, il va falloir tout traduire en anglais pour la joueuse et tout. Oui, en équipe nationale, c'est quand même bizarre.
Olivia, encore un mot sur toi. Ta situation est quand même particulière puisque t'es meneuse de l'équipe de France. Et là, actuellement, tu n'as pas de club.
Oui, tout à fait.
Tu vas jouer où la saison prochaine? T'as forcément des négos en cours.
C'est une Méjane qui essaye de la prendre pour son équipe.
Pour le moment, je suis sur le marché. Effectivement, je n'ai pas de club.
Mais une grosse rebondeuse, Olivia. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, une grosse rebondeuse.
Non, mais je suppose que tu...
C'est quoi tes projets?
Tu dois pas être très inquiète, non?
À l'étranger encore?
Plutôt à l'étranger, oui.
Euroleague? Tu peux pas en dire un club d'Euroleague plus, c'est ça?
Non, je peux pas en dire plus.
Non, mais t'as des ambitions européennes, Eurocup ou Euroleague, tu t'en
fous? Ah oui, non. Plus l'Euroleague, c'est vrai que c'est l'une des plus grandes compétitions, l'une des plus prestigieuses. Donc oui, l'Euroleague, après, tout dépendra du projet proposé.
Et il y a un club qui te fait rêver, par exemple?
Le Fener avec Briard-Clay.
Mais moi, j'ai aucun souci avec elle. Hein. Non, moi, ça me dérangerait pas du tout d'évoluer avec elle. Hein. Donc moi, je la prends comme une autre joueuse. Après, c'est sûr que les gens ils vont dire comme c'est une Américaine, ceci, cela. Mais moi... J'évolue aussi avec des Américaines, j'ai joué contre elles, j'étais en rivalité, en concurrence contre elles, donc j'ai aucun souci avec elles, hein, de porter le même maillot avec elles, on verra bien comment ça se passera, si ça doit se passer.
Olivia et Poupa dans Buzzer Time, donc la Coupe du Monde féminine, c'est du 22 au 30 septembre, c'est à Tenerife en Espagne, et ça sera bien sûr sur RMC. Tu restes avec nous Olivia, on va faire un duo Fred Weiss, Olivia et Poupa face à Stephen Brun. Pour évoquer l'actu du basket français, c'est l'heure du 1 contre 1, le premier de la saison.
Je suis pas inquiet.
Chaud, les mecs?
Je suis pas inquiet.
T'es pas inquiet?
Non, pas du tout.
Ah, mais je pense que c'est ta petite faiblesse.
De quoi?
T'es assez au-dessus, ouais, en termes de connaissances.
Mais c'est vrai que t'en attends une petite piqueur de niveau humilité, ça fait du bien.
Mais je pense que c'est, voilà, ton talent d'Achille, il est là, quoi. Un peu le boulard, quand même.
Ouais, bah oui, normal.
Faut le reconnaître, hein. Ouais, l'humilité de Fred, tu vois, ça n'a pas toujours été non plus
l'humilité
un énorme
de Fred,
atout.
Ça le dessert, voilà. L'humilité de Fred.
Mais parfois, il y a toujours un retour de bâton.
En fait, entre Fred et moi, il n'y a pas du tout milieu.
C'est
un manque de confiance,
karma,
c'est vrai.
Tu peux rien, Steve.
Ouais, c'est vrai.
Tu vois, quand t'as Jimal, ton corps te punit. Allez, à tout de suite pour le 1 contre 1.
RMC, Buzzer Time, Pierre Dorian.
Allez, on est ensemble jusqu'à 22h sur RMC avec Stephen Brun et Frédéric Weiss. Stephen, la petite chemise. Fred, le polo. On est reparti sur les mêmes bases vestimentaires que la saison dernière. Hein.
Mais il y avait une émission avant. Moi, je suis en mode touriste.
Ça marche, les maillots.
Mais regarde,
mon polo. Not a USB IG.
On n'a pas trop le droit de faire de la pub, mais bon, on est comme
c'est
ça sur
la maison.
C'est une toute petite marque, en plus.
On parle un peu de notre vie quotidienne, quoi. C'est comme ça. Quoi. C'est beaucoup de boulot, non?
Beaucoup de boulot.
T'as travaillé cet été, toi?
J'ai beaucoup travaillé.
T'as pas pris beaucoup de vacances?
Ah, j'ai eu 4 jours.
T'as suivi l'actualité du basket?
Peu. Pierrot, on va pas se mentir, peu.
Non, parce que tout ça, c'était pour en venir à ça, hein.
Pierrot, t'as deux boulots, toi, maintenant, non, apparemment.
C'est-à-dire?
T'es mécanicien la journée et le soir, tu viens à la radio avec ton bleu de travail, non?
Ça, c'est pour moi la couleur de mon pantalon.
Exactement.
C'est ça. Écoute, moi, je m'habille aux couleurs de l'équipe de France. Ah, et
c'est
j'assume.
Beau. C'est beau.
Par des champions
patriotisme,
du monde,
le patriotisme.
Ce t-shirt bleu, blanc, rouge, je l'ai pas quitté de l'été.
Ça se sent.
D'ailleurs, est-ce que vous avez kiffé un peu la Coupe du Monde?
T'as la chanson de Vegedream dans ton MP3?
Non, je l'ai pas, mais franchement, hey, c'est pas du tout le genre de musique que j'écoute, mais j'avoue qu'il assure.
Il,
là, il a fait un truc,
il a fait un
vrai tube. Il a fait un vrai tube.
Ça fait comment la chanson, Pierrot?
Là, tu m'en demandes trop, là. Olivia, t'as kiffé la Coupe du Monde de foot?
Ah ouais, c'était super. En plus, moi, j'adore le foot, donc du coup, j'étais sur mes écrans, là, pour regarder les matchs de l'équipe de France et aussi en parallèle des autres équipes.
Donc, Olivia, très grande danseuse, elle connaît toute la choré de la chanson de Vegedream.
Olivia est Poupa, la meneuse de l'équipe de France de basket. Fred, la Coupe du Monde de foot, ça s'est passé comment là?
Bien.
Tu t'en fous toi?
C'est la France qui a gagné.
Non, j'étais ravi que la France gagne, mais sinon.
Sans plus quoi.
Sans plus.
Genre quand t'es en finale contre la Croatie, t'as pas le cœur à 200 quoi.
Non, pas du
tout. T'en fous, tu regardes ça vite fait.
En espérant que la France gagne. Bien sûr.
Ah, toi, t'étais à fond, toi.
Moi, j'étais en...
T'avais les maquillages bleu, blanc, rouge.
Ouais, t'enflammes pas non plus.
Bah quoi?
Non, j'ai kiffé, mais j'ai pas non plus jusque là.
Pourquoi pas?
Bah, je te réponds, non. Mais j'ai kiffé.
C'est pas une honte, non, mais tu dis ça à l'air de dire, ouais, c'est pour les blaireaux.
Pas du tout, c'est que je le fais pas, tout simplement.
C'est bon, tu fais bien de préciser. Bon, en tout cas, j'espère pour vous que vous avez suivi l'actualité du basket cet été, hein.
RMC. Buzzer time. Buzzer time.
Alors, l'actualité du basket français, puisque je vous rappelle qu'on passe en revue le basket français sous forme de quiz dans le 1 contre 1. Olivier, on va te mettre dans l'équipe de Fred, c'est arbitraire,
bon courage.
Mais c'est vrai que Stephen domine cette compétition, donc on essaie de trouver des renforts à Fred, qui n'est pas non plus, une victime expiatoire, il a gagné 2-3 fois quand même.
Ouais, c'est ça, sur 50.
On va démarrer avec Boris Diaw. Ouais. Alors, deux séries de 5 questions sur Boris Diaw. L'équipe qui répond le mieux gagne le point. Hein. Donc, il y a beaucoup de questions, mais ça ne vaut qu'un point. Hein. Il y a Boris Diaw basketteur ou Boris Diaw en dehors du parquet.
Ça, c'est deux sujets, en fait.
Voilà, c'est les deux sujets, les deux thèmes
cinq questions.
Ouais.
Qui choisit?
Alors, qui choisit? Stephen,
Olivia,
t'es tout seul.
Olivia,
tu choisis. Franchement, les deux sont difficiles. Hein. Te prends pas la tête. Basket ou en dehors du basket?
Basket.
Allez, basket, c'est parti. Cinq questions.
C'était un bon choix, ça.
Ah, j'aime parce que
ça sera beaucoup plus dur.
Alors, quelle est la place de Boris Diaw à la draft 2003? Est-ce que vous le savez? Ça, je pense que Stephen, il savait peut-être, non?
C'est très... Non, tu commences et nous...
Non, c'est que pour vous. C'est que pour vous. Vous l'avez ou pas?
Autour de la 40.
Moi, j'aurais dit moins, j'aurais dit 18.
Alors, votre réponse, une seule réponse.
Vas-y, je te fais confiance.
30e.
Ouais,
30e. La bonne réponse, c'est 21. Champion de France en 2001 et en 2003 avec Pau Orthez.
Ça, j'avais.
Qui était son coach en 2003?
Claude Bergeau.
Non, c'est pas la bonne réponse. Tu l'as, Steve?
Fred Sarr, non?
Ouah, bien, ouais. C'est ça, Frédéric Sarr. Bravo. Donc, toujours zéro bonne réponse. En NBA, il a reçu un trophée individuel en 2006. Lequel?
MIP.
Most Improved Player. Voilà la première bonne réponse. Combien de podiums avec l'équipe de France A? Je parle bien de l'équipe de France A pour Boris. Vous pouvez réfléchir de minutes, enfin 30 secondes.
4.
Hein. Olivia.
Je le suis.
4. La bonne réponse, c'est 5.
C'est quoi le cinquième?
Alors, troisième à l'Euro 2005 avec toi.
Il y a 4 médailles à l'Euro et un podium à la Coupe du Monde 2014.
Exactement. Voilà, il a tout résumé. Et enfin, quel est son premier coach en NBA à l'avoir fait jouer pivot?
Avec le pop.
Alors, non, alors je suis salaud parce que j'ai pas lu la question d'entier. Pivot avec les Phoenix Suns. Le coach mythique.
Mike D'Antoni.
Bah oui, Mike D'Antoni. Okay. Une seule bonne réponse. À toi, Stephen.
Moi, je suis pas inquiet.
Ouais, ça parie, fais gaffe quand même.
Je suis plus serein.
On a le droit à une revanche ou?
Non, c'est pas fini.
Cinq questions en dehors du basket. Donc, ouais. Son père a été champion du Sénégal dans quelle discipline?
En athlétisme.
Ah, je vous demande la discipline, pas le sport.
J'ai tenté de carotter. En saut en longueur.
Ah! C'était saut en hauteur.
Moi,
donc c'est pas une bonne réponse. Alors, il s'est engagé dans la marine nationale.
Oui.
Quel est son grade?
Je sais pas, officier volontaire ou je sais pas quoi, un truc comme ça.
Capitaine.
Ouais. Capitaine Babak.
Ah, ouais.
Quel est le nom de son bateau?
Babak.
Babak, absolument. D'où vient ce surnom de Babak?
Parce que son deuxième prénom c'est Babacar, non?
Excellent, deuxième bonne réponse, tu vas marquer le point. Et enfin, on termine avec sa passion pour la photo. Il a fait un livre de photos animalières pour enfants pour un grand journal américain. Lequel ?
Sports Illustrated.
Mais pas du tout, c'est National Geographic.
Ah oui.
C'était pas si facile, mais tu marques ce premier point, Stephen. Votre connaissance de Boris, qui est quand même assez limitée, faut bien le reconnaître, hein, dès qu'on entre dans le détail. Allez, une petite citation, c'est ce que préfère Fred.
Tout le monde joue, Olivia. Tout le monde joue là.
Je vous cite une phrase, il faut retrouver quel est l'auteur
de cette
phrase.
Il n'aura pas le temps de la finir, qu'il connaîtra déjà la réponse, Stephen.
Vous êtes prêts? Qui a déclaré, en fait, il me proposait d'être assistant coach.
Tony Parker.
Tony Parker à propos de la proposition que lui ont fait les Spurs d'être troisième meneur. Alors, ça, à vrai dire, c'était dans une interview qu'il a faite avec question. David Cosette. T'inquiète pas, hein. Il y a l'équivalent tout à l'heure.
J'ai pas fait l'interview, moi.
Ce qui est intéressant dans cette interview, c'est qu'il explique qu'en gros, la proposition des Spurs, c'était vrai, il en manquait, quoi. Il manquait de quelque chose, quoi. Salaire, soit de d'ambition sportive, mais.
Ouais, et puis surtout.
C'était trop light pour lui.
Et surtout, on se rend compte que Tony, il a encore envie de jouer et d'avoir des minutes et de montrer que c'est un vrai joueur NBA. Il est pas encore prêt à passer le relais au premier meneur, au deuxième meneur et à donner des consignes. Il a envie de jouer tout simplement et d'être considéré comme un vrai joueur, ce que ne lui a pas proposé les Spurs. Mais cette proposition des Spurs, elle est un peu du style, voilà, on te propose ça, on sait que tu vas refuser.
Ouais. Allez, 2-0 pour Stephen, tout est possible, hein, Olivia et Fred. Alors, qui a déclaré, voir les Anglais perdre me procure beaucoup de plaisir. Ah, tu l'as vu ça, Olivia, hein.
Voir les Anglais.
Olivia, c'est...
Au basket,
elle
les Anglais jouent pas au basket, si. Bon, les Anglais,
c'est l'actu du basket français et sont que ça a un rapport avec le basket français.
C'est Fred Weiss?
Non, c'est pas non, Fred Weiss. Elle l'a, Olivia. Olivia, réfléchis.
Voir les Anglais perdre m'a procuré beaucoup de plaisir.
Qui a vu les Anglais perdre? Quand est-ce que les Anglais ont perdu?
À la Coupe du Monde au foot.
À la Coupe du Monde au foot.
Contre les Belges. Non.
C'est ça, Olivia, tu l'as.
Evan
Fournier, bonne réponse.
Bien joué.
Evan Fournier qui était au taquet sur toute la Coupe du Monde, vous avez suivi ça quand même.
Oui, si, ça oui.
Qui arrêtait pas de réagir. Donc le premier point de l'équipe Fred et Olivia, ça fait 2-1. Qui a déclaré, il fallait parfois le menacer pour qu'il veuille bien prendre un shoot.
Greg Popovich.
Mais tous les joueurs ont leur petit défaut. C'est Greg Popovich à propos de Boris Dio.
Boris Dio, ouais, ça c'est
une interview qui date d'il y a plus d'un an, hein, puisque...
j'ai retrouvé, quitté les Spurs en plus.
J'ai retrouvé cette interview, voilà, qui était à l'époque où Boris était encore à Utah et Greg Popovich parlait de son passage aux Spurs. Donc ça fait 3-1 pour Stephen, Greg Popovich qui pleurait le départ de Boris Dio parce qu'il disait depuis qu'il est parti, en gros, on s'emmerde dans les dîners,
personne
ne boit avec moi, personne ne blague avec moi. C'était son meilleur pote en fait. Qui a déclaré, c'est génial, tu mènes une vie de joueur sans le stress des matchs.
C'est moi.
C'est toi, Fred Weiss, absolument. Dans une interview.
T'as vu ça?
Au Républicain.
T'as vu, j'arrive à me reconnaître.
Alors, franchement, l'idée de l'interview, elle est assez sympa. Ils t'ont fait passer en revue tous tes mauvais choix après ta carrière.
C'est vrai. Ouais, c'est vrai.
C'est
sympa.
Incroyable, ce truc.
Non, c'était top.
Mais c'était une très bonne idée.
Ouais.
Genre resto, t'as essayé?
Ouais.
Catastrophe?
Catastrophe, oui, dans le sens où c'était très compliqué. Le mec qui a pris juste après moi, qui est un expert de restauration, s'est planté. Il a fermé, il n'existe plus le resto.
Faire des choucroutes à Limoges, c'est moyen comme idée aussi.
Attends, tu sais que moi, je suis Lorrain, Alsacien, c'est pas loin.
T'as essayé la glande aussi?
La glande, ça marche
mauvaise
pas du
idée.
Tout. Bah, j'ai pris que 50 kilos. Je sais pas si... Je conseille pas.
T'as essayé quoi encore avant de trouver ta voie?
Non, c'est déjà pas mal, hein, je trouve. Quand même.
Bon, et au final, donc consultant, c'est génial. Tu mets une vie de joueur sans le stress des matchs.
Exactement. On peut visiter les villes. On a le temps de tout faire. C'est cool.
Tiens, Boris Dio, on y revient. 247 sélections comme sa maman. 247, c'est beau. 247. Mmh. Qui détient le record absolu, hommes et femmes confondus, sélection en équipe de France?
Céline Dumère.
Céline Dumère, Olivia, c'était pour toi. C'était servi sur un plateau, mais il est rapide.
Un peu plus rapide.
Je suis vif, hein.
T'es très
Alors autant sur le
autant sur le terrain, il était pas du tout vif, mais alors,
chacun ses qualités.
Ça fait 4-2 pour Stephen Brun.
C'est dommage qu'on soit pas à la télé parce qu'Olivia, elle est focus comme jamais, elle rigole pas, elle est concentrée.
Mais pas du tout, c'est la compétition là. En plus, on est en train de perdre, n'est-ce pas?
Je confirme, mais j'ai trouvé deux réponses, moi.
Ouais, c'est vrai. T'es en train de dire que c'est de ma faute.
Je sous-entends en tous les cas.
Quelle solidarité.
Je recadrerai le match là, les enjeux, messieurs dames. Il y a 4-2 pour Stephen, il me reste 3 questions. Donc là.
Enfin, 3 sur 3, si j'ai bien compris.
Vous connaissez le défi, là. Hein. C'est bon? On y va? Allez. Qui a déclaré, merci pour tous tes conseils, King?
C'est LeBron James, le King, c'est LeBron James.
Le King, c'est LeBron James, absolument.
Kevin Love.
Non.
Cyril Méjean.
Non.
Ronny Turia.
Qui a rencontré les bonnes? Qui a rencontré les bonnes? Merci pour
ça. Qui a rencontré Mbappé?
Qui a rencontré Mbappé?
Merci. Yes. T'as vu que j'ai misé sur toi. Je savais que c'était.
Je l'ai donné quand même.
Mais ça va pas ou quoi?
Bah si, quand même.
T'es mauvais joueur.
Passe d'ess à l'adversaire.
Ah oui.
Mauvais shoot.
Comme au Media Football Club.
Passe d'ess. Réponds d'Olivia et passe d'ess. Allez, ça fait 4 à 3. Il me reste 2 questions. On y retourne. Qui a déclaré non, la draft d'Eli Okobo n'est pas un échec?
Thierry Ray, Didier Ray, le président de Portes.
Oh, Didier Ray, t'as failli leur faire une passe d'aise encore avec le Thierry Ray, le président de Portes, qui explique que pour eux, finalement, même s'il a été drafté deuxième tour, ils prennent quand même $200,000.
Les premiers tours, c'était un peu mieux. Hein. Ouais. Sûrement, c'était pas
ça
même.
Leur permet d'avoir un bilan positif.
D'un côté, il dit ça, et sur une autre partie de l'interview, c'est quoi le journal là-bas? La République,
je crois,
la République des Pyrénées.
Oh, quel mépris, mais regarde-moi ce parigot.
Et il dit,
c'est incroyable. C'est quoi leur journal de dos?
Non, c'est pas ça, je trouvais pas long. Et il dit aussi, par contre, on va devoir changer nos plans de recrutement parce qu'on n'a pas eu le montant attendu. Donc c'est quand même deux discours différents.
Je pense qu'il dit pas toute la vérité.
Bah si, il dit toute la vérité, mais en deux fois.
On a quand même bien les glandes.
Un dernier point pour l'honneur, qui a déclaré une page se tourne. Un nouveau chapitre porteur d'espoir et de nouvelles promesses s'ouvre devant moi.
Une page se tourne. C'est Manu Ginobili.
Non.
C'est un mec qui a pris sa retraite, non?
C'est un mec qui a pris sa retraite.
Pape Philippe
Amagou, ouais. Bien wesh. Ouais, bravo Fred et Olivia, il en manque un tout petit peu. Ouais. Il en manque un tout petit peu puisque Stephen, tu remportes le premier one-to-one de la saison. Bah 5-4.
Je vais demander à Saïm Jeanne de prendre les comptes quand même sur un petit papier, un stylo.
5-4, fais pas de fanfaron.
Sur la saison.
Fais pas le fanfaron. Sur quoi t'as eu de la chance?
Bah, sur rien du tout.
Sur rien du tout, c'est vrai.
C'est vrai.
J'avoue. Allez, on va terminer cette excellente émission, n'est-ce pas, du lundi soir, Buzzer Time, par des infos coulisses, les infos coulisses ramenées de la NBA par Cyril Méjean, notre producteur, qui a passé quand même ses vacances avec Giannis Antetokounmpo. Ouais. Avec qui encore?
Par contre, il est débiteur maintenant sur son compte en banque, à traîner avec des joueurs NBA. Kina
et avec Serge Ibaka. C'est beau, non?
C'est beau.
À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h, Buzzer Time, Pierre Dorian.
Frédéric Veil, Stephen Brun, Buzzer Time tous les lundis soirs, 21h, 22h, avec Olivia Epoupa, la meneuse de l'équipe de France qui prépare sa Coupe du Monde. Attention, on a de l'info, là on a du lourd.
RMC, Buzzer Time, Buzzer Time.
On s'en fout ce qui arrive en deuxième mi-temps, même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Mais moi je préfère perdre en se battant.
Locker Room.
Avec Cyril Méjean, notre producteur, donc qui est à la fois journaliste, coach de basket et
ami des stars.
Quoi encore, et organisateur d'un camp de basket aux États-Unis l'été. Et donc, tu en as profité pour aller à la rencontre de tes idoles.
Mes idoles, je sais pas. Peut-être les idoles de Stephen ou de Fred ou d'Olivia.
Bon, c'est pas tout à fait vrai parce que tu les as rencontrés en France surtout, non?
Non, pas tous.
Non, pas tous. Ok. Alors, on va faire le tour de tes vacances avec les stars de la NBA.
Oui.
C'est surtout des infos qu'on veut, hein. C'est bien gentil.
Ça raconte pas que t'as mangé des pizzas avec Serge Ibaka.
Non, c'était plus que ça. Alors, tout d'abord, j'étais avec Frank Ntilikina, le meneur des New York Knicks. Il devait intégrer l'équipe de France pour le tournoi de Paris et aussi pour la fenêtre internationale pour jouer les deux matchs avec l'équipe de France. Mais il a finalement décidé de rester avec la franchise new-yorkaise. Il explique pourquoi.
Tout d'abord, déjà, c'est vraiment une déception pour moi de ne pas pouvoir y aller. C'est un crève-cœur. Donc, je sais déjà qu'il y a beaucoup de déçus par rapport à ça et j'en suis déjà le premier. Après, c'était une décision qui a pas été facile à prendre, mais c'est je pense la meilleure décision pour préparer au mieux ma saison et devenir le meilleur joueur que je puisse devenir après cette saison et notamment aussi apporter encore plus de renfort à l'équipe de France dans le futur s'il y a occasion d'y représenter les couleurs du pays.
C'est quoi la vérité derrière ce choix, Cyril? C'est les Knicks qui mettent la pression?
Ah oui, il a pas eu le choix.
C'est lui qui veut
final,
se mettre toutes les chances de son côté.
Il est sous contrat avec les Knicks, c'est son employeur, il a pas eu le choix, il a dû rester à New York pour préparer la nouvelle saison avec un nouvel entraîneur.
Alors, vous allez me dire si je me trompe, Steve et
oui,
Fred,
Pierrot.
Mais moi j'ai du mal à croire à ce genre de discours. Si tu regardes, en fait, l'historique des internationaux français,
pas facile à dire, ça.
En NBA. Non, mais sérieusement.
Non, mais certains ont plus de poids que d'autres.
Et
c'est plus facile de dire ça pour un joueur comme Tony Parker, comme Boris Diaw, qu'un Frank Ntilikina qui vient d'arriver,
qui était
très haut, dans une très grosse franchise qui est New York.
Tous ne l'ont pas fait. Pareil. Et ceux qui l'ont fait, malgré leur statut, l'ont parfois fait contre l'avis de leur franchise, avec des problèmes incessants. Gérard Borisio n'avait pas non plus le statut de Tony Parker.
Il n'avait pas le statut de
Joachim Noah, à un moment, aurait très bien pu imposer des choses aussi. Je veux dire, ça tient aussi quand même au joueur lui-même.
Moi, cette décision, elle appartient à 100% au joueur. Si le joueur, il va, prend Frank Ntilikina, il arrive devant son GM, il dit écoutez, moi je pars en équipe de France. Le GM, déjà, il a pas le droit de lui dire non, c'est interdit. Alors il pourra lui mettre pression en disant tu sais, on a pris deux meneurs, t'as fait une année rookie, peut-être qu'il y aura plus tout ce genre de pression. Mais si le joueur, il dit je vais en équipe de France, il va en équipe de France. Et moi là où je suis déçu par Frank Ntilikina, c'est que ça fait un an, deux ans qu'il rêve de jouer avec l'équipe de France A, lui qui a joué avec les équipes de France jeunes. Et il nous pond un communiqué comme ça, un communiqué bateau pour nous dire l'amour du maillot, je l'aurai la prochaine fois, je serai là. Mais c'est là parce qu'en plus tu apprends.
Non mais surtout ça le ferait progresser. Mais
c'est
tout
pas
court.
Comme si, exactement, c'est pas comme si tu travailles pas quand t'as 18 ans, que t'es meneur de jeu de l'équipe de France. Alors oui, tu joues en Bulgarie, à la Finlande, mais à 18 ans tu progresses, tu deviens plus mature sur le jeu européen et t'arrives à New York avec plus d'armes, plus de cordes à ton arc et tu pourras gagner ta place.
Jeu bien sûr.
Je suis désolé, moi je vous rejoins pas. C'est un gamin, il est dans une franchise énorme où il y a beaucoup beaucoup de pression parce que c'est un des endroits où il y a plus de médias avec Los Angeles. C'est impossible de dire non. Il a pas le
poids. Parce qu'il est en équipe de France, il revient là-bas, les mecs disent tu joues pas de la saison.
Non, mais si le mec te dit, imagine en début ils te disent ok vas-y, mais si tu es pas bon toute l'année, bah tu joueras plus. Et qu'est-ce qui va se passer?
Non, ça se passera pas comme ça, Fred.
Et tu sais pas les menaces qu'il peut avoir, mais c'est super compliqué là-bas, franchement.
Regarde cette saison, ils ont recruté des meneurs, ça a été un peu n'importe quoi.
L'année prochaine, ils ont trois meneurs.
Au début, on a cru qu'il allait très vite exploser, meneurs, après son temps de jeu s'est réduit. Il y a tellement de paramètres qui entrent en compte que s'il est bon, il y a un moment, il va jouer.
Mais il a intérêt à assurer d'entrée. Hein.
C'est pas parce qu'il va partir 8 jours en France, jouer deux matchs, qu'il va devenir mauvais.
Mais complètement, ça a aucun rapport. C'est juste que par rapport à sa franchise, ben c'est son employeur. Et s'ils disent c'est compliqué, on préfère que tu restes, ben c'est difficile à son âge, un gamin, dire non, moi je m'en fous des New York Knicks, je choisis ce que je veux faire.
Moi je pensais qu'il avait un peu de caractère. Je suis déçu.
À suivre, hein, parce que il y aura peut-être un autre épisode rapidement, en tout cas l'année prochaine, mais peut-être qu'il va se positionner avant l'été prochain. Alors donc de New York, t'as pris un avion intérieur, t'es allé à Milwaukee. Alors c'est pas le même décor.
Pas du tout. Je suis allé à Athènes. Une petite vanne, Steph.
C'est la fête.
Et oui, donc direction Athènes pour rencontrer.
Là, faut être initié quand même. Ouais. C'est la blague de l'année dernière. Il y a un an quand même, les mecs. Il faut quand même l'expliquer. Donc Stephen avait sorti avec Giannis Antetokounmpo. C'est la fête à Milwaukee.
Voilà.
Oh, tu peux continuer.
Donc direction Athènes pour rencontrer Giannis Antetokounmpo, la star des Bucks de Milwaukee. Bien entendu, nous avons parlé basket. Il m'a demandé des conseils pour progresser. Je demandais ok.
Bon, le mytho.
Mais lesquels alors?
Ce sont plein de choses. Tous les joueurs sont très forts. Ce sont les détails qui font la différence. Honnêtement, il y a une chose dont tout le monde me parle, c'est qu'il faut que je travaille sur mon shoot. Mais il y a plein d'aspects où je dois encore m'améliorer. Je vais passer du temps sur le terrain et j'espère revenir encore plus fort pour la saison prochaine.
Giannis Antetokounmpo, il doit progresser sur son shoot.
Bah, déjà, il détruit la NBA sans tir. Ça, c'est quelqu'un qui prend quasiment, un tir et demi de moyenne à trois points. Sinon, c'est tout dans le drive, dans la fixation, au dunk. Donc, s'il progresse au tir,
il va devenir un joueur.
Ouais. Mais je pense que dans les années à venir, ça va être le meilleur joueur NBA.
Après, il a été quand même une sorte de candidat, au titre de MVP, la saison dernière. Rapidement, il a pas été au niveau de performance d'un Steve Curry ou d'un James Harden.
Collectivement, son équipe, les Bucks, c'est pas au niveau d'une équipe comme les Warriors ou une équipe comme les Cavs ou une équipe comme les Rockets de James Harden. Il faut aussi que l'équipe soit top niveau.
Non, mais est-ce qu'il a été décevant, clairement, en un mot?
Non. Tu dis n'importe quoi.
Lui, il a pas été décevant. Mais encore une fois, l'équipe, c'est très important là-bas pour la NBA.
Il a pas été décevant. Il est dans le top 5 des meilleurs marqueurs. Il est dans le top 5 des meilleurs rebondeurs.
Toi, t'es un peu amoureux de lui, comme tu l'étais de Dirk Nowitzki plutôt. Et honnêtement, on en a parlé en début de saison comme d'un candidat pour le trophée MVP, ce qui n'a finalement pas été au bout du compte.
Parce que son équipe a été décevante, tout simplement.
Uniquement pour sa performance personnelle.
En termes de chiffres statistiques, il est au niveau pas au niveau, parce que James Harden est monstrueux et LeBron James aussi, mais il se porte top 3, top 4.
Rien à ajouter, Fred?
Mais je suis d'accord.
Très bien, très bien. Alors, tu as également rencontré Serge Ibaka, donc le pivot.
Retour à Paris.
De l'Espagne à Paris.
Français, là, quand même.
Retour à Paris. Alors, moitié français, moitié anglais. Donc, nous avons décidé de bruncher. Nous sommes allés dans le 8e arrondissement de Paris.
Un quartier populaire.
T'as dû lui coûter cher, un brunch, Serge Ibaka.
C'est passé en frais.
Un quartier populaire.
Vous savez que je suis à fond, sur aider l'équipe de France avec de nouveaux joueurs comme Joel Embiid. Donc, question pour Serge Ibaka. Est-ce que tu aurais aimé jouer pour l'équipe de France?
Il s'est foutu de ta gueule.
Tu as joué en France quand même.
Le... Oui, j'ai joué un peu en France. Ouais, ouais, j'étais où ça encore?
À Brissé-Macon.
Ouais, j'ai joué en France. Oui, bon, à l'époque j'étais jeune. Hein. J'étais jeune, donc je pensais pas vraiment trop à ça. Et moi, mon dream, c'était d'aller jouer un jour, d'évoluer dans. D'abord, quand je suis arrivé en France, mes rêves, c'était de jouer dans les grosses équipes ici, Pro A, tout ça. Donc, c'était un peu ça. J'avais pas vraiment envisionné l'équipe nationale. Parce que j'étais jeune et bon, ouais.
Est-ce que la Fédé est venue te voir pour te dire, il faut absolument que tu joues pour nous?
Non, non. C'est ça aussi, non.
Et s'il l'avait fait?
On sait jamais.
Alors qu'est-ce
que c'est ever. Oui, oui, c'est ever. So.
Non, en gros, il aurait pu, mais c'est trop tard.
Par contre, les Espagnols, ils l'ont fait. Ils sont allés le voir. Hein.
D'ailleurs, comment un joueur comme ça, qui est quand même originaire du Congo, se retrouver international espagnol? C'est encore une aberration, ça, non?
Bah, il était à Brissé-Macon et
je crois qu'on a parti en Espagne en jeune après.
Il est parti en Espagne jeune.
Il est à Mandresa. Il a joué à Mandresa.
Il a la double nationalité.
Et les Espagnols, ils ont mis le grappin dessus.
Bah, ils ont vu un
passeport,
talent comme ça,
naturalisation.
Ça nous aurait fait du bien.
Bah, on en a fait les frais parce qu'on a joué l'Espagne avec Sergi Baca et on a ramassé.
Il nous a fait mal. Merci Cyril, t'as passé de bonnes vacances.
De très bonnes.
Félicitations. Et tout ça aux frais d'RMC, bien
entendu.
Olivia et Poupa, merci d'être venus dans Buzzer Time.
Merci à vous.
On va suivre maintenant les pas de l'équipe de France à la Coupe du Monde féminine à partir du 22 septembre. Il est là avec son nœud papillon orange. C'est Nicolas Villas qui va prendre la suite pour l'after. Salut Nico.
Comment ça va?
Bah ça va bien.
Ça roule. Hey,
mais pas, on est équipé.
Ouais, mais
toi t'as un micro Madonna.
Ouais.
Et je parle quand même dans le micro. Mais tu parles quand même dans
le
micro.
En fait, je viens de me rendre compte qu'en fait j'ai un micro Madonna, mais c'est la première fois que je fais ça.
Ah.
Comme je le dis, on est à la radio, les gens savent pas encore. Du coup, je peux me balader, je joue. Ça va quoi?
Très bien.
Regarde, je peux marcher dans le studio, les gens le savent pas.
Quel programme? 5 secondes pour le programme.
C'est vrai. Eh ben écoute, c'est l'after. Voilà, avec Daniel Riolo et Pierre Ducrot, les avis tranchés, les drôles de dames. On reviendra sur le France-Pays-Bas d'hier, bien entendu, les infos du jour. Bref, on vous attend au 32-16 dans quelques instants. À tout de suite, bande de vénards.
RMC Football Show, l'after foot.